ce qui relie au niveau des sensations, les diverses sensations, et qui permet de faire des comparaisons, des jeux entre ces diverses comparaisons, de voir les harmonies qui existent entre cela. Je n'insiste pas, mais c'est très intéressant, le sens commun d'Aristote. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on appelle le sens commun. Il manque de sens commun. Descartes a employé le sens commun dans une façon tout à fait différente. Ça relève de Descartes. Avant, sensus communis, c'était dans le sens du philosophe. Donc il y a eu un déplacement. C'est intéressant. Je ne dis pas du tout qu'il faut reprendre le mot sens commun d'Aristote, mais c'est intéressant de voir qu'il montre qu'il y a un nœud. Dans cette diversité, il y a une unité. Parce que je crois que c'est ça qui va constamment nous alerter. C'est que la connaissance cherche l'unité. Et ça me semble très caractéristique, ça. Donc, au niveau des sens communs, vous avez la première diversité, puis vous avez cette unité. Puis qu'est-ce que vous avez ensuite? Vous avez ensuite l'imagination. La fantasia. L'imagination. Vous vous formez au-dedans de vous-même des images. Idolum. Icône. On se forme au-dedans de nous-mêmes des images. Enfin, le mot grec, icône. Idolum, idole. En latin. Et d'où image. Très curieux, ça, très intéressant. C'est la connaissance représentative. Vous voyez, la sensation, pour elle-même, elle ne représente rien du tout. C'est chaud. Vous êtes représenté ce que c'était que le chaud. Essayez de vous représenter ce que c'est que le chaud. Le chaud à l'état pur et le froid à l'état pur. Ah oui, alors vous avez tout de suite une image, un iceberg qui s'avance devant vous. Ou bien le chaud, on étouffe. La serre surchauffée, on étouffe. Mais vous ne pouvez pas vous représenter une sensation. Vous ne pouvez pas vous représenter la lumière. Impossible. Les sensations à l'état pur, c'est très cru. C'est du reste, il y a un art pour ça, hein. On le sait très bien, qui veut aller au-delà de l'expression, au-delà de la représentation. La représentation, c'est très impur. Vous voyez bien, dans la connaissance sensible, hein, si je suis un puriste, l'imagination, mais c'est très secondaire, c'est pas du premier. C'est un assemblage de sensations qui fait qu'au bout d'un certain temps, j'imagine. L'imagination a donc sa dimension propre. C'est un domaine de connaissance très particulier, l'imagination. Parce que vous avez des imaginations du côté de la vision, du côté du toucher, du côté de l'ouïe, c'est très multiple, genre d'imagination. Très, très multiple, très divers. Puis, c'est quelque chose de très particulier. Nos imaginations, la plupart du temps, se lient à un climat affectif, passionnel. C'est très rare d'avoir une imagination très pure, comme imagination. Elle est très souvent liée à l'affectivité. Oui, tandis que le toucher peut être lié à l'affectivité, c'est sûr. La vision l'est moins. La vision, c'est le sens de la connaissance où on peut avoir la plus grande pureté. Ça fait partie, vous voyez, les peintres ont ce souci très grand de la lumière, un sens de pureté. Le sculpteur, c'est moins pur. Il y a des sculptures très belles. Je parle de la pureté au sens connaissance. Hein. C'est plus mélangé, c'est plus lié à la matière. Tandis qu'au contraire, la lumière, c'est quelque chose qui peut aller très loin. Alors, c'est pour montrer que ces cinq sens qui se nouent en dernier lieu à l'imagination. L'imagination demeure une connaissance sensible. On le verra la fois prochaine. Connaissance représentative. Qui est le premier lieu de synthèse. C'est l'imagination qui établit en premier lieu des synthèses. On établit des synthèses imaginatives. J'entre ensuite dans une autre connaissance dont on ne parle plus beaucoup aujourd'hui. Saint Thomas a puisé ça aux Arabes du XIe et XIIe siècle, aristotéliciens. La cogitative. La cogitative, c'est quelque chose de très particulier. On revient à ça, la cogitative et l'estimative. L'estimative pour les animaux, c'est le sens de ce qui me convient. Ce n'est pas toujours du caprice. Les animaux ont très fort ce sens. Vous voyez, une biche qui broute, c'est amusant. Elle évite de prendre certaines herbes qui lui sont nuisibles. Elle fait ça instinctivement, l'estimative. Chez nous, la cogitative, Saint Thomas dit que c'est la ratio particularis. Je saisis directement quelqu'un. Vous savez, la cogitative, elle joue énormément quand vous déterminez cette chose très curieuse. Il y a des lieux qui vous conviennent. Il y a des lieux qui ne vous conviennent pas. Les gens qui saisissent les champs magnétiques, c'est la cogitative. Saint Thomas disait que c'était de saisir les insensate. Les insensate, c'est-à-dire les choses qui ne tombent pas sur les sens, les sensibles, qui sont au-delà des sensibles et pourtant demeurent dans le domaine particulier. Tout ce qui me convient, les choses qui me conviennent, dans l'ordre du goût, dans l'ordre des rencontres. Pourquoi vis-à-vis de certaines personnes, ça sent le soufre. Je sais pas, c'est qu'est-ce qu'il y a. Certaines personnes, certains lieux, ah non, je ne peux pas rester là. Des personnes terriblement sensibles, quelquefois, sont comme ça. Alors on dit, oh, c'est névrotique, elles sont complètement malades. Attention, pas toujours, elles peuvent sentir certaines choses que vous, personnage plus grossier, vous ne sentez pas. Et d'autres le sentent. C'est curieux, ces choses-là. Il y a une espèce de perspicacité, de saisie de ce qui me convient. Il ne faut pas aller contre. Alors les gens sortiront leur pendule, n'est-ce pas, pour donner ça. C'est pas le pendule, vous comprenez, c'est autre chose. Le pendule, chez les gens qui ont vraiment ça, c'est simplement pour être un témoin. C'est pas le pendule. Ils connaissent avant. C'est curieux ces choses-là. On ne peut pas nier qu'il y a des gens qui saisissent certaines choses que d'autres ne saisissent pas. Aujourd'hui, on est bien obligé de le reconnaître. Et ils ont un sens de la maladie. Ils disent, vous avez tel organe qui est malade. Il y a quelque chose qui ne va pas. Là, le convenience. Saint Thomas le disait. Hein. Ce n'est pas une invention moderne. C'est une chose très, très ancienne. De saisir les choses qui conviennent à l'animal que je suis. Qui conviennent à l'individu que je suis, et les choses au contraire qui vont contre, qui sont en opposition. Oui, des champs magnétiques. Je me souviens, à Rimont, quelqu'un que je recevais, que j'aime beaucoup, je ne dis pas le nom de la personne, première fois qu'il vient, il dit, mais c'est extraordinaire les courants magnétiques que vous avez ici. Moi, j'avoue ne pas l'avoir senti. C'est extraordinaire. Puis là, je regarde son bras. Mais toutes les petites éruptions, immédiatement, il sentait ça, tout de suite. Et en effet, j'avais remarqué une seule chose, c'est que les orages sont particulièrement violents. On n'est pas très haut. Et on était comme en grande montagne. Les éclairs, comme si c'était en grande montagne, tellement il doit y avoir un centre d'attraction. Ces choses-là, qu'est-ce que c'est? C'est très difficile à saisir. C'est insensate. Le mot est très très joli. Insensate. Les choses, vous voyez, qu'on ne sent, qu'on ne sent pas par nos sens, mais que nous saisissons comme ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, ce qui peut être bon, ce qui peut être particulièrement difficile. Il y a des lieux où certaines personnes n'arrivent jamais à dormir. Et ces gens qui saisissent ces champs magnétiques disent tout simplement, mais oui, vous n'êtes pas dans le bon sens. Ils rectifient. Alors que, d'habitude, le bon scout, il dort partout, c'est bien évident. Il suffit qu'il ait tout simplement son sac de couchage et puis il dormira n'importe où. À l'autre, non. Alors on dira, mais vous êtes difficile. Mais non, c'est pas difficile. Vous sentez certaines choses qui ne vous conviennent pas. Vient ensuite une connaissance que nous appelons ordinairement la connaissance intellectuelle. Nous cogitons, nous pensons. Ça fait autre chose. Notre langage a une signification. Vous voyez, c'est là où je crois qu'il serait très intéressant de bien voir, je le ferai tout à l'heure au tableau, de bien voir ces niveaux de la connaissance. Le niveau fondamental. Ce au-delà de quoi vous ne pouvez pas aller, c'est le toucher. Et le sommet, la contemplation philosophique, c'est le sommet. Ce au-delà de quoi vous ne pouvez pas aller, mais non pas dans l'ordre du fondement, mais dans l'ordre ultime et dernier. C'est jamais, évidemment, si vous n'avez jamais contemplé, vous direz ça n'existe pas. Il y a des philosophes qui ont contemplé. Il y a des hommes qui contemplent. Ça existe, la contemplation. Ça existe. C'est une vision intérieure, un regard d'aigle, qui va beaucoup plus loin que d'habitude. Puis il y a un repos de tout qui se fait. Donc il y a une connaissance ultime entre deux, entre le toucher et la contemplation. Bon, il y a l'imagination. Puis il y a le dépassement de l'imagination, comme je commence à connaître l'universel et la signification. Quand vous commencez à penser au petit chat, chat, quand je vous dis chat, ça a une signification. Certains pensent tout de suite à la signification. D'autres voient tout de suite une petite image. Ils voient un petit chat. Le minet du coin. Ils voient tout de suite un petit chat. Alors, deux petites oreilles, une moustache extraordinaire, dans tous les sens. Alors, c'est bon, le chat. N'importe quel autre animal, vous pensez, il y a une signification. Les mots ont une signification. Et les mots ont une signification universelle. Je reviendrai là-dessus la fois prochaine. La signification universelle des mots. Ça, c'est ni la sensation, ni l'imagination, c'est autre chose. Je commence à penser. Je pense. Et j'essaie de comprendre que ma pensée, elle implique des intuitions, des saisies. Ah, j'ai compris. Ça vous arrive de temps en temps de dire ça. J'ai compris. Quand vous dites j'ai compris, ça représente quand même quelque chose. Ce n'est pas la sensation. Quand vous prenez le matin du défroid, vous dites, est-ce qu'il est froid? Est-ce qu'il est chaud? Tout à fait autre chose que quand je dis, je comprends. Je saisis. Ah, j'ai saisi enfin. Bon, il y a là un domaine particulier de la connaissance intellectuelle qui commence à s'éveiller. Puis on discerne. Porter un jugement critique, discerner quelque chose. Le jugement en grec, krinein, discerner. Ça s'est traduit en latin judicium, le juge. Et en français, le jugement. Le jugement, en français, il a porté un jugement. Le juge porte des jugements. Il n'y a pas que le juge qui porte des jugements. Et on discerne. Le mot discerner, je crois, est plus exact. crinais, je discerne. Je divise. Je raisonne. Et je raisonne de multiples manières. On ne raisonne pas que d'une seule façon. On raisonne, c'est-à-dire on chemine. Puis au terme, on contemple. En gros, c'est cela. Il y a différentes étapes dans la vie de l'intelligence. Puis alors, ce qu'il y a de très intéressant, nous allons le reprendre après, parce que on fera comme les autres années, si vous voulez, 10 minutes d'arrêt entre deux pour ménager vos ménages, n'est-ce pas? Alors, 10 minutes d'arrêt où vous pouvez écrire vos questions, vos interrogations, vos objections. Là, vous faites œuvre d'intelligence, n'est-ce pas? Parce que interroger, poser une question, c'est une activité intellectuelle. À partir d'une matière donnée, le cours précédent. Alors vous allez poser des questions, si vous en avez posé, n'en posez pas s'il n'y a aucune question. C'est facile aujourd'hui, on est dans l'ordre descriptif, aucune difficulté. Il faut y aller lentement, hein. On entre progressivement en philosophie. Il faut y aller lentement. Alors, au début, on est dans cette attitude réflexive sur tout ce que je pense en moi, tout ce que je porte en moi. Alors, 10 minutes, je ne dis pas de silence, puisque c'est l'inverse, 10 minutes d'arrêt du cours, puis je reprends après pour terminer cette question d'aujourd'hui. Je continue alors. On a posé deux questions. Quelle est la distinction entre l'intuition et la cogitative? Je crois qu'on peut dire que la connaissance cogitative a un mode intuitif. On saisit un rapport concret entre tel bien et tel individu. Et moi-même, ou entre deux personnes. De sorte que je crois qu'on peut dire que la cogitative a un mode intuitif, mais n'est pas l'intuition. L'intuition est une connaissance intellectuelle. L'intuition porte sur une relation. C'est une relation, une nouvelle relation. Il y a des intuitions esthétiques. Il y a des intuitions affectives, il y a des intuitions critiques, il y a des intuitions intellectuelles. Alors la grosse différence, c'est l'expérience et l'intuition. Ça, je crois que ce serait très intéressant de bien le voir. Je crois que l'expérience, si on prend l'expérience au sens fort, parce que c'est difficile, l'expérience de fait a pris des significations très différentes. Il y a expérience et expérimentation. Je crois qu'il faut tout de suite distinguer les deux. Expérience et expérimentation. L'expérimentation, c'est une expérience qui est déjà élaborée. C'est une expérience qui se fait avec une hypothèse de recherche. Et on voit si l'hypothèse de recherche est confirmée ou est rejetée. C'est un retour vers le réel, la réalité sensible qui m'est donnée, vers le donné, si vous voulez. Tandis que l'expérience est quelque chose de plus direct. L'expérience prend des modalités très différentes, en ce sens que je peux parler d'une expérience interne. J'ai une expérience interne quand je commence d'aimer. Quand je sens en moi une attraction vers telle personne. Donc il y a une expérience interne. Il y a une expérience interne quand j'essaie de saisir la vérité. Alors, il y a une expérience interne. Il y a une expérience interne quand j'ai des rêves, des cauchemars. Où situer exactement cette connaissance? C'est intéressant, du reste. Et puis, il y a une expérience que j'appelle l'expérience au sens fort, c'est l'intelligence liée à nos sensations. Je touche du bois, hein. Je touche. C'est chaud, c'est froid, c'est rugueux. J'ai une expérience externe, l'intelligence et le goût. J'en ai dit, c'est du bon vin. C'est un excellent fromage. Et ainsi de suite. Alors, c'est l'intelligence liée au goût. Chez l'artiste, c'est constamment ça. Quand je dis cette harmonie est merveilleuse, cette mélodie est très belle, oui, je saisis là l'intelligence liée à l'ouïe, l'intelligence liée à l'odorat. Nous avons des expériences différentes qui proviennent justement de ces alliances très fondamentales de l'intelligence et de nos sensations. Je crois que l'expérience telle que le philosophe peut en parler, l'expérience la plus radicale, c'est toujours le lien d'intelligence et du toucher. L'intelligence essaie de discerner ce qui lui est donné comme réel et ce qui est imaginaire. Petite distinction très importante. Quand vous vous réveillez d'un cauchemar, quand vous vous réveillez d'un rêve qui vous a saisi, qui vous a un peu angoissé, ah, ce n'est qu'un rêve. Ah, vous êtes soulagé. Ça dégringole tout constamment. Vous faites un discernement. Qu'est-ce que c'est que ce discernement? Ça implique le toucher. Normalement, ça implique la vue, vous vous réveillez, le soleil qui frappe, tout simplement vous vous réveillez, alors vous touchez votre lit. Vous faites le discernement entre ce qui est un rêve, un beau rêve ou un cauchemar, et des choses dont on est désolé de découvrir que ce n'est qu'un rêve. Et puis d'autres choses, au contraire, qu'on est enchanté de dire ce n'est qu'un rêve. Où se fait ce discernement de ces deux connaissances, le rêve et le jugement d'existence? Le jugement d'existence, c'est quand l'intelligence est liée aux sensations, liée au toucher, liée à la vue, il dit ceci est, c'est réel. Vous ne dites pas nécessairement ceci est, mais vous dites ceci est réel. Tandis que dans le rêve, il n'y a pas de jugement d'existence. Vous êtes pris par l'imaginaire. C'est l'imaginaire qui bat la campagne. Quelqu'un qui ne fait plus la distinction entre le rêve et la réalité, ça commence à devenir inquiétant. Dites, où est-ce qu'il va? Où est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Il idéalise. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est important de faire ce discernement. Puis tout de suite dire, il y a un débordement imaginatif. Comment vais-je arriver à arrêter ce débordement imaginatif? Alors là, vous voyez, la méthode Vitose, hein, reprenez la sensation, le sens de la sensation, pour éviter ces débordements imaginatifs. Vous prenez une douche, vous dites, ah oui, c'est de l'eau qui tombe sur moi. Ah, ça, c'est, oui, c'est bien. Tandis que si vous prenez une douche imaginative, je me souviens, c'était très amusant, c'était au couvent, dans le temps, Il y avait le bon Père Allot, le Père Allot, vous savez, qui a écrit commentaire de l'Apocalypse, extrêmement intéressant et très érudit, parce qu'il a dit toutes les élaborations de tous les exégètes allemands dans l'Apocalypse. Et il y en a. Alors, si vous voulez de temps en temps vous amuser, il faut lire ça. Ça, c'est un amusement extraordinaire. Toutes les imaginations qui ont pu avoir lieu sur le thème de l'Apocalypse. Il symbolise l'Apocalypse. Il a tout recueilli. Évidemment, depuis sa mort, ça a continué. Alors, il faudra un appendice. Mais autrement, il a tout dit. Et le Père Allot, étant au Solchoir, notre couvent d'études en Belgique, c'est un froid très, très humide du nord de la France et du nord de la Belgique. Alors, de temps en temps, il avait froid, il voulait se réchauffer. Alors on le voyait prendre des haltères imaginativement. Il portait des poids extraordinaires. Il faisait des exercices d'haltères pour se réchauffer. Il se réchauffait comme ça. Extraordinaire, il faisait ça consciencieusement, en bon exégète qu'il était. C'était merveilleux, encore comme ça, faisant ça. Alors il dit, mais les haltères, j'aime mieux qu'ils soient imaginatifs, comme ça, ils sont au poids que je veux. Tandis qu'autrement, eh bien, tout de suite, on comprend que ce n'est pas la même chose de faire un exercice avec des haltères imaginativement que de prendre un poids réel. Oui, le réel et imaginaire. C'est très important, ça. Ça fait partie de la critique, vous voyez. La critique doit nous permettre de faire une distinction beaucoup plus nette entre l'imaginaire et le point de vue de l'intelligence. Et au fond, c'est ça la santé de l'intelligence. Parce que le jour où vous confondez les deux, hein, vous partez, je ne sais pas trop où. Partez dans les nuages et vous faites votre petit planeur. Ça tient un certain temps, mais ça ne tient pas tellement longtemps, parce que vous êtes dans l'imaginaire. C'est des choses très importantes aujourd'hui, d'arriver à discerner le rêve éveillé, vous savez, tout d'un coup on est distrait. On n'est plus du tout dans le réel. D'être distrait. Et quelquefois, vous aimez mieux la distraction que la réalité, parce que la distraction, elle est au poids que vous voulez, tandis qu'au contraire, la réalité, elle s'impose à vous. C'est pas toujours très drôle. Hein? Donc, vous voyez, la cogitative, on reviendra avec l'intuition. L'intuition, c'est quelque chose qui porte sur un rapport. Alors, que l'expérience porte sur une réalité existante. Ce n'est pas un rapport. Dans le jugement d'existence, lié au toucher, je touche quelque chose. Et je sais que je touche quelque chose. Ce n'est pas un rapport. C'est chaud, c'est froid, c'est tiède, c'est rugueux. Ou c'est bon. Quelle est la différence entre l'autolucidité, donc on me demande de reprendre un instant, l'autolucidité de la connaissance intellectuelle parfaite et la critique? C'est que dans l'autolucidité de l'intelligence, de la connaissance intellectuelle, je n'ai pas de nouvel objet que ce que je connais par ma connaissance. Je suis lucide et je suis très attentif à dire je touche cette table. Cette autolucidité dans la méthode Vitose, être attentif à la qualité de l'eau dans laquelle je mets mes mains. Être très attentif au thé et à la chaleur du thé du petit matin. À la qualité du pain. On est lucide, on sait. de la qualité, ce pain est dur, ce pain est frais, à l'odeur merveilleuse du boulanger le matin. C'est attentif à ça. Vous voyez, c'est une question d'attention qui permet cette auto-lucidité. Tandis qu'au contraire, dans la connaissance critique, il y a un nouvel objet. C'est la connaissance elle-même que je regarde. Vous voyez, tout à l'heure, quand on regardait, par exemple, la diversité des sensations, c'est un aspect critique. D'habitude, quand vous touchez, vous vous dites, ah, je touche, mais je pourrais peut-être goûter ce bois. Alors, je vais me mettre à le manger, tu vois. Je pourrais peut-être goûter ce bois. Un gosse ferait ça. Une grande personne ne le fait pas, parce qu'elle est moins curieuse. Le gosse, il ferait ça tout de suite. Il touche immédiatement, il veut lécher, il veut me mordre dedans. Sa mère est là derrière, mais non, tu vas te casser les dents, c'est trop dur. Mais il aime ça. Il aime, parce qu'il a été un éveil, alors il sait qu'il y a une autre connaissance. C'est à l'état instinctif, mais il le fait tout de suite. C'est très, très curieux de voir ça. C'est que nous avons besoin de connaître une même réalité sous des aspects différents. Alors, comme on a les cinq sens, nous les touchons différemment. Et puis, nous pouvons les imaginer. Alors, voyez ce que je... Alors, la critique, donc, c'est un nouvel objet, une nouvelle connaissance, un type nouveau, parce que c'est autre chose que je connais. Ce n'est plus l'homme. Le philosophe cherche à connaître l'homme sous ses diverses dimensions. Tandis qu'au contraire, la critique cherche à découvrir si je suis capable d'atteindre la vérité. Si je suis capable d'atteindre la vérité, qu'est-ce que c'est que la vérité? Ça, c'est une question de critique. Est-ce que je suis capable, étant donné la complexité de mes connaissances, d'atteindre la vérité? Et où puis-je atteindre la vérité? Et quel est le fondement de toute ma connaissance? Sur quoi se fonde ma connaissance? C'est donc extrêmement intéressant pour moi, cette lucidité. Et puis pour essayer, comme on essaiera demain, de saisir la genèse de la connaissance intellectuelle. J'ai demandé une fois à un psychanalyste s'il pouvait me préciser, dans sa psychanalyse, les différents niveaux de connaissance. Alors il m'a simplement dit, c'était un freudien, il m'a simplement dit, je ne m'en occupe pas. Je dis, c'est très dommage. Vous pourriez compléter Freud par le souci de connaître la connaissance intellectuelle et le niveau de connaissance intellectuelle. Et ce serait sans doute beaucoup plus intéressant et vous corrigeriez pas mal de choses. On a essayé ensemble, parce que c'est très intéressant de voir ça. Nos connaissances affectives, vous comprenez, elles se différencient en fonction de la connaissance. Autre chose, une affectivité imaginative, autre chose, une affectivité qui suit la cogitative. Autre chose, une affectivité qui suit le point de vue de l'intelligence. Autre chose, une affectivité purement instinctive. Donc, il y a des niveaux d'affectivité qui sont très très différents. Et le désordre provient que justement, l'affectivité imaginative s'empare de tout. La folle du logis. Elle s'empare de tout. Alors, à partir de ce moment-là, je ne sais plus où je suis. Je suis dans ma bulle de savon. Très, très joli pour les autres, mais c'est pas drôle du tout pour soi. Parce qu'on ne sait pas où on va. Donc, voyez bien, la lucidité, c'est simplement une qualité de l'intelligence, nous y reviendrons la fois prochaine, tandis que la critique, c'est une nouvelle connaissance qui présuppose l'auto-lucidité. Il n'y aurait pas de critique, c'est pas ça, c'est bien évident. Alors, je voudrais maintenant, ce que je vous ai dit tout à l'heure, poser quelques grandes questions. Je vais contemplation. C'est le sommet de toute ma connaissance. On essaiera de savoir qu'est-ce que c'est que la contemplation. Ma vie intellectuelle, quand je réfléchis sur mes diverses activités, je sais que la contemplation existe. Je peux en avoir l'expérience, en avoir une certaine lucidité. parle d'avoir une certaine conscience. Et si je ne l'ai pas, je sais que des grands philosophes ont parlé de la théoria des Grecs. Et puis d'autres philosophes, Bergson, ils ont parlé de la contemplation. Ils ont considéré tous, alors tous les philosophes qui parlent de la contemplation, considèrent la contemplation comme le sommet de toute connaissance. Vous avez ensuite, des jugements. Vous avez ensuite des jugements, c'est-à-dire ce que je disais, discernement. Je discerne, je suis capable de discerner. Je juge. Là, il y aura des opérations qui seront proches de ça, qu'on verra. La division. Je divise. Puis il y aura quelque chose de très important sur lequel il faudra revenir. L'affirmation et la négation. J'ai deux formes de jugement, négatif et affirmatif. Alors qu'est-ce qui est premier? Ça c'est une question très intéressante. Qu'est-ce qui est premier? L'affirmation ou la négation? C'est très curieux que cet ordre-là, c'est important, va discerner tout de suite la philosophie ancienne, grecque, et la philosophie moderne. Chez les Grecs, l'affirmation est première, la négation est seconde. Chez les modernes, chez beaucoup de modernes, à partir de Hegel, la négation est première et l'affirmation est seconde. Sauf que je crois, on se posera la question, ici on se pose des questions, on peut toujours se poser des questions hein, pour avancer un peu plus. Je crois qu'on peut dire que mettre la négation avant l'affirmation, c'est le signe de la modernité. Il faut philosophiquement chercher qu'est-ce que c'est que la modernité. Pas pour la condamner, mais pour la préciser. Qu'est-ce que c'est ça? Bien, je crois que c'est la primauté de la négation sur l'affirmation. Et au contraire, ce qui est classique, si vous voulez condamner quelque chose, hein, pour mettre un mot, ce qui relève de toute la source de notre pensée occidentale, la philosophie grecque. La philosophie grecque, c'est l'affirmation qui est première. Et la négation est seconde. Donc, il y a un problème. Je n'ai pas le droit de dire, oh, pour moi, c'est l'affirmation. Attention. Vous savez que les psychologues voient l'âge affirmatif et l'âge négatif. Parce que ce qui est vrai du côté connaissance est vrai aussi du côté affectif. Alors vous avez des raisonnements. Alors il faudra comprendre le raisonnement inductif, le raisonnement déductif, et dans les raisonnements déductifs, il y a encore des divisions. Vous avez le raisonnement, l'attitude réductive,